Nous, on est des jeunes du Pré-Saint-Gervais et au printemps, on est devenus journalistes. On avait soif de découvertes. Le mercredi après-midi, on s'est retrouvés au 36, l'espace jeune de la ville, pour faire un stage radio avec Transsonore. On a rencontré des personnes pour découvrir leur métier en rapport avec la solidarité et l'écologie. Des métiers très variés. Un couturier solidaire, un maître composteur et un réalisateur de documentaires qui travaille dans une coopérative.
Dans ce nouvel épisode, Transsonore vous fait découvrir un couturier engagé.
Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son.
Savez-vous qu'il y a un couturier connu caché près de chez vous? Son atelier est situé dans une sorte de cabane près de l'église du Pré-Saint-Gervais, dans la cour fleurie et accueillante d'un immeuble.
Au premier regard, on pourrait croire que c'est une banale cabane et pourtant elle cache des trésors et des secrets. Quand on pousse la porte de l'atelier, Ludovic est en train de travailler sur sa nouvelle collection.
Il y a plusieurs tables de travail avec des machines, des tissus, des ciseaux, bref, tout ce qu'il faut pour créer et coudre.
Il nous surprend en nous posant des questions pour en savoir plus sur nous.
Vous savez quel type de seconde vous allez faire? Peut-être que j'aurais dû vous demander ça plutôt que quel métier.
Général.
Oui. Ok.
Des métiers qui voyagent comme la géopolitique, le commerce.
Oh, génial.
Ou le journalisme sur terrain.
Ça, c'est super.
Vous avez vu, là, il est en train d'inverser les rôles. Hein, c'est lui qui vous interviewe.
Non, ça
là.
M'intéresse quand même de comprendre un peu,
bah,
un peu ce qu'ils vont dire aussi.
Nous avons été les arroseurs arrosés. On a vite compris que Ludovic s'intéressait aux autres. Pas étonnant que ce soit un créateur engagé.
Bonjour, donc je m'appelle Ludovic Winterstein, je suis couturier, artisan d'art et professeur de modélisme.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 41 ans.
Depuis combien de temps vous êtes couturier ?
Alors, je suis sorti d'école en 2004, donc j'ai fait des études de mode et j'ai commencé à travailler tout de suite. J'ai acquis le label artisan d'art 10 ans après, donc en 2014. Et je suis prof de modélisme depuis 2016.
Quelle formation vous faites ?
Alors, j'ai fait un bac général littéraire, j'ai fait un doc d'histoire de l'art et ensuite, les écoles de style étaient beaucoup trop chères par rapport au budget que j'avais. Du coup, je suis reparti en arrière et j'ai fait un BEP, CAP, bac pro couture en un an, les trois en fait condensés en un an. J'avais que des cours d'atelier et une formation diplômante en modélisme, en technique, technique du vêtement, technique de construction du vêtement exactement.
Quelle a été votre source d'inspiration ?
Alors, ma source d'inspiration première, ça a été, durant mes études, toute la partie histoire de l'art. J'ai découvert tout un tas d'artistes, aussi bien en peinture qu'en sculpture, etc. Et ensuite, après, la découverte des grands défilés de mode des années 90-2000, à savoir les défilés John Galliano pour Dior, Alexander McQueen, etc.
Du coup, ce métier est votre vocation?
Oui, complètement. Oui, ce métier est complètement une vocation. Je n'ai pas l'impression de l'avoir choisi. J'ai toujours su que j'allais faire ça.
Est-ce que vous travaillez avec Hermès qui est à côté?
Alors non, je ne travaille pas avec Hermès qui est à côté, mais par contre... On songe depuis quelque temps à les contacter pour voir si un partenariat pourrait être d'actualité.
Est-ce que vous travaillez avec des marques de haute couture ?
Oui, je viens de terminer un contrat chez Louis Vuitton.
Vous faisiez quoi du coup ?
Je crée les volumes en toile d'après les dessins ou les idées du directeur artistique Nicolas Guesquière pour la collection croisière qui va défiler demain.
Est-ce que l'industrie de la mode et de la haute couture ont une démarche responsable selon vous ?
Selon moi ? Pas assez. Je pense qu'il y a beaucoup de grandes maisons qui pourraient faire plus d'efforts. Et je pense surtout qu'on est tous un peu fautifs et qu'il faudrait quand même qu'on s'habille un peu moins chez Zara et H&M notamment. Voilà. Parce qu'ils produisent en fait dans des endroits qui ne sont pas du tout adaptés à du travail pour l'humain. Et surtout, produisent dans des quantités tellement astronomiques que ben, c'est comme ça qu'on commence à faire du gaspillage. C'est comme ça qu'on achète en masse. C'est comme ça qu'on jette les vêtements en masse, qu'on pollue beaucoup, etc.
En quoi votre métier est-il écologique ?
Alors, mon métier n'est pas du tout écologique, et vous le savez, puisque l'industrie de la mode est une des industries les plus polluantes. En revanche, la manière dont nous, on l'exerce est plutôt écologique, dans le sens où on ne travaille qu'avec la France pour la production, la fabrication, pour les fournisseurs de tissus aussi. Donc déjà, on évite les circuits longs, on évite d'aller acheter des tissus qui sont fabriqués en Corée ou à l'autre bout de la planète. En empreinte carbone, en fait, on est trois fois rien. Et après, au niveau des tissus, on évite d'acheter des matières chez des fournisseurs qui fabriquent. Et on achète plutôt des fins de série de grandes maisons. On exploite en fait des matières qui risquent d'être jetées en fait et de finir au recyclage, ce qui est très difficile à faire pour du textile. On réutilise nos tissus. Il y a carrément même des vêtements qu'on déconstruit, qu'on reconstruit. Là, en ce moment, par exemple, on fait une collecte de jeans. Et à partir du jean, on va déconstruire tous les vêtements de jean qu'on va nous amener. On va récupérer les parties les plus intéressantes. Ce n'est pas forcément celles qui ne sont pas déchirées. Au contraire, ça peut même être intéressant. Celles qui nous paraissent être le plus judicieuses pour construire de nouveaux vêtements. Et à partir de là, on va construire de nouveaux vêtements. Donc oui, on fait ce qu'on appelle de l'upcycling. Voilà, donc on essaye à la fois d'utiliser des matières qui sont un peu éco et en même temps d'avoir un fonctionnement en termes de fournisseurs et de production qui reste français pour éviter une empreinte carbone un peu trop forte.
Quelle matière utilisez-vous ?
Alors, on utilise tout type de matière, vraiment. Après, on a une certaine appétence pour les matières nobles et surtout la dentelle qui est fabriquée en France. Mais on utilise tout type de matière, aussi bien le jean que les cotons, que tout autre type de matière.
Pourquoi vous donnez des cours aux habitants du Pré-Saint-Gervais ?
Ah, ça, c'est encore autre chose. Alors, la formation que je fais avec le territoire Est Ensemble et avec les habitants du Pré-Saint-Gervais, c'est une formation qui est destinée aux personnes éloignées de l'emploi, qui sont souvent des primo-arrivants, des personnes qui faisaient ce métier-là dans d'autres pays, notamment les pays du Maghreb, et qui, en France, en fait, ont des difficultés à se faire recruter parce que leur diplôme n'est pas reconnu ici. Donc moi, la région Est Ensemble, la mairie du Pré, etc., on propose en fait à ces personnes une sorte d'adaptation du diplôme en fait pour leur faciliter un petit peu l'accès à l'emploi ici à Paris notamment.
C'est quel profil de personnes qui suivent
la formation ? Ouais. Alors la formation de couture donc par l'insertion, on a tout type de profil. J'avais sur la dernière session aussi bien une jeune fille chinoise qui avait 18 ans qui elle était en décrochage scolaire et qui cherchait tout simplement ce qu'elle allait faire après, et j'avais aussi à contrario une personne qui avait 56 ans qui, elle, avait plein de diplômes, a travaillé en Algérie pendant 30 ans dans des ateliers, a complètement la possibilité de travailler et de faire une fin de carrière ici, que j'ai aidé à adapter son travail aux exigences, en fait, parisiennes, on va dire, des maisons de couture parisiennes. Voilà. Donc, j'ai tout type de profil. Le seul impératif lors des recrutements, c'est la motivation. Voilà, c'est la motivation.
Est-ce que vous habitez des stars ?
Alors, ça nous est arrivé. On a habillé Vanessa Paradis, notamment, Chaim. On a habillé Vita, Bilal Hassani. Oui, on en a habillé quelques-unes, ouais.
Quelle est votre plus grande fierté niveau création ?
Ma plus grande fierté niveau création, c'est mon assistante Eva. qui m'accompagne depuis un an, qui est un réel soutien pour moi. Mais si on parle de création, ma plus grande fierté, c'est mon partenariat avec le musée des dentelles de Caudry, de Calais-Caudry, avec qui je travaille depuis 4 ans maintenant, et avec qui on fait pas mal d'expositions, de montage d'événements, etc. Ils financent une partie des dentelles et on leur apporte une partie de l'image.
Combien coûtent vos créations ?
Ah, alors, vaste question. Alors, ça dépend du temps qu'on a passé dessus, ça dépend de la qualité des matières, de la quantité de broderie, du prix des tissus. En fait, pour faire un prix, on fait d'abord ce qu'on appelle un prix de revient, à savoir combien le produit nous coûte. Et une fois qu'on a ce prix de revient, on applique un pourcentage. Si c'est dédié à des boutiques, on va appliquer un certain pourcentage. Si c'est dédié à des clients particuliers, on va appliquer un certain pourcentage. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, on s'arrange pour que le prix soit quand même en adéquation avec les attentes du client, que ce soit une boutique ou que ce soit un particulier. En fait, comme il y a deux parties dans ce qu'on crée, une partie prêt-à-porter et une partie plutôt haute couture, la partie prêt-à-porter est plutôt destinée à des clients particuliers et des boutiques qui vendent à des particuliers. Et la partie haute couture est plus destinée justement aux personnalités, aux musées et aussi à la presse. La fourchette, en fait, est très large parce que c'est vraiment une question de matière, de temps passé, puis de où le produit va aller ensuite. C'est pas pareil si c'est une robe qui va terminer pour un opéra, donc qui va nécessiter beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup de précision. Et si c'est une robe qui est destinée à aller à la plage l'été, ça, je pense que vous l'entendez. Et c'est là où le travail artisanal rentre en compte et c'est un tout petit peu plus cher.
Est-ce que ce métier est rentable ?
Ah ! C'est comme le prix des vêtements. Des jours oui, des jours non. Je pense que comme tous les métiers créatifs, il faut trouver son public, trouver ses clients. Et voilà, donc c'est pas toujours évident. Il faut parfois faire, comme je le fais, plusieurs métiers dans le métier pour pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc et pour pouvoir basculer en fait d'un projet à un autre. C'est toujours un peu difficile au début, mais je crois que c'est des métiers passion et je crois qu'il faut pas espérer être riche tout de suite et surtout le prendre comme quelque chose d'épanouissant. Il faut juste travailler, être conscient que ça va être difficile et surtout ne pas baisser les bras. Voilà.
Je vais te répondre à la prochaine question, merci.
Je vous en prie, c'était quoi?
Bah, c'était est-ce que ce métier est difficile?
En fait, il n'est pas vraiment difficile quand on aime ce qu'on fait. C'est comme tout ce que vous faites. Je pense qu'il y a des matières à l'école où vous trouvez que c'est plus facile parce que vous aimez bien la matière et d'autres où c'est plus difficile parce que la matière vous parle un peu moins. C'est exactement pareil. Si vous choisissez des métiers qui vous plaisent et qui vous correspondent, ce sera toujours, toujours beaucoup plus facile. N'ayez pas peur des gens qui vont vous dire quand vous avez des envies, notamment ceux qui ont envie de faire des métiers un peu passion, où on vous dit que ça va être bouché, etc. Si vous pensez que c'est fait pour vous, n'abandonnez pas. Vraiment, battez-vous. Allez-y, battez-vous. Je ne vous dis pas que ce sera facile, mais battez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Ce podcast a été réalisé par Stéphane,
Driss,
Iba,
Akram,
Sarah,
avec l'aide de Laure Vatrin de l'association Transsonore, Joséphine Beau, Hilary Beauté et Carole Devalent.